Il est mort Jim, lu par l'auteur, chapitre 10, épisode 64. Cette même soirée, Liz Angela m'invita à une retraite. Du jeudi au dimanche de la semaine suivante, elle aurait lieu au monastère Santa Maria de Santissima Trinidad à Lurin. Elle s'y était inscrite à partir du samedi matin. Elle serait consacrée à la compassion, un bon sujet pour qui débuter dans l'étude du bouddhisme, et le lama Padma Samten serait présent. Comme son nom ne l'indiquait pas, les lamas prenaient un nom tibétain, il était brésilien. Il n'y avait donc pas de lama péruvien, de cette sorte non, pas encore. Il serait accompagné d'un traducteur peruano-brésilien. Google Maps indiquait 45 minutes pour arriver à Lurin, mais nous préférâmes sortir à 7h30 afin de nous assurer que nous serions à 9h à la retraite. Comme à notre habitude, nous nous amusâmes à jouer avec les mots entre les lamas qui n'existaient pas au Pérou et la retraite qui s'annonçait. Liz Angela souhaitait qu'on ne la sonne pas. Après Angamos, nous prîmes la Panaméricaine Sud. Mon pick-up Octa, quand j'accélérais, peu habitué qu'il était à fréquenter les grandes routes. Pourquoi avais-je besoin d'un tel véhicule alors que mes seuls transports étaient intellectuels? Quand j'étais marié avec Roberta, nous faisions de fréquents voyages dans les Andes. Huánuco, la ville de l'éternel printemps où elle était née, mais il n'y avait jamais habité, Santa Eulalia, ou parfois le week-end, quand nous voulions être tranquilles, nous allions à la pension Los Giles Soles. Nous n'avions pas peur non plus des grands périples vers Cajamarca, Cusco, et même jusque dans la forêt amazonienne. Nous nous étions rendus à Ayacucho alors qu'elle était encore l'épicentre du soulèvement du sentier lumineux. Je voulais être au cœur de l'action. J'écrivais encore mon doctorat. Je me souviens surtout que dans plusieurs villages alentour, on me cria « Pichtaco ». En 1987, la ville s'était tellement isolée que certains paysans avaient renoué avec la peur de l'envahisseur blanc. Après une cinquantaine de kilomètres, nous quittâmes la Panamericana pour prendre une route qui bordait de larges terrains secs et arrivâmes devant le portail vert du monastère. Qu'est-ce qu'ils attendent pour l'ouvrir, leur portail? Je crains qu'il va falloir que tu ailles sonner. Que veux-tu? Les mesures de sécurité? Je ne vois pas de quoi ils ont peur au milieu de nulle part. Justement, peut-être. On sonna, le portail s'ouvrit et nous nous garâmes dans l'allée. La végétation était abondante à l'intérieur de l'enceinte, comme les alentours ne le présageaient pas. On se trouva un peu embarrassé avec nos bagages du week-end à l'entrée des bâtiments. Du bruit parvenait de ce qui semblait être le réfectoire où les retraités prenaient leur déjeuner. J'eus un haut le cœur devant cet étalement de la vie collective. Les joyeuses colonies de vacances, même à la sauce spirituelle, très peu pour moi. Liz Angela ne semblait guère plus à l'aise. « Bienvenue, » dit une voix mâle et douce. Elle provenait d'un petit homme chauve, debout derrière une petite cabine que la porte nous avait empêchés de voir. Nos noms étaient bien dans la liste, nous nous sentîmes mieux à notre place. Après nous avoir demandé avec cette voix chaude qui devait être une des étapes avancées de l'illumination, si c'était notre première retraite, il dit, avec le plus parfait naturel, comment s'était déroulée sa première et comment il ne pourrait plus se passer de ces rencontres. Elles étaient en effet étonnantes. Pendant le court trajet pour prendre nos bagages dans la voiture, puis la montée des escaliers dans la chambre, toutes les personnes que nous croisâmes nous saluèrent. « Jamais vu ça au Pérou, » murmura Liz Angela. « Jamais vu ça non plus ailleurs, » ajoutai-je. La chambre, elle, était plutôt froide, monacale. C'était bien normal. On se retrouva dans la même chambre sans se consulter. Liz Angela l'avait réservée pour elle. Quand elle m'avait inscrit, il n'y avait plus que des chambres de 2 ou 3 places. Afin d'éviter, officiellement, que nous nous retrouvions avec des inconnus, elle avait indiqué que nous partagerions une chambre. Ce n'en était pas moins insolite. Nous déposâmes nos affaires avec gêne, il y avait bien 2 lits, mais la chambre était étroite. Liz Angela attendit, sans rien dire, tandis que je pris le second. Une odeur de pied nous confirma que nous étions à l'entrée de la grande salle, où de nombreux participants, déjà déchaussés, avaient pris la position du lotus. Nous occupâmes prudemment des tapis périphériques. Liz Angela s'était munie de coussins qui facilitaient une tentative de position bouddhique. Il y avait des bannières en plastique, avec des dessins et des textes, comme dans un congrès de marketing des années 70. Les personnes présentes formaient un demi-cercle plein qui se concentrait sur un petit piédestal recouvert d'un tapis. Je me demandais si ce n'était pas une malle comme celle disposée dans mon appartement d'étudiant et qui servait de table, de fauteuil et de meubles de décoration. Au-dessus, il y avait une image kitsch d'un Bouddha. À côté, c'était une photo du Dalai Lama. Une jeune femme, assise au plus près du monument, armée d'un petit récipient de laiton qui contenait son portable, tandis qu'elle arborait un petit pilon de l'autre main, se retourna. Elle nous demanda, souriante, si nous avions déjà médité. Elle, n'était pas tout à fait novice, Moi, si.